Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez
Geneviève Peterson.
Joseph Facal qui chroniquait ce matin dans le Journal de Montréal sur la réalité des personnes trans dans le monde du sport. Puis vraiment, c'est comme un débat qui refait surface. Là. J'imagine que c'est en lien avec l'avènement des Jeux olympiques de Pékin en 2022. Cette idée-là que c'est pas juste, qu'il y a des gens qui sont trans, qui sont dans, entre guillemets, les mauvaises équipes. Et on parle beaucoup des athlètes trans féminines. Donc, je me suis dit, hey, belle occasion de parler de la communauté trans et du sport avec une personne qui connaît vraiment son affaire. On est avec Guylaine Demers, qui est co-directrice du Centre de recherche canadien sur l'équité des genres en sport, prof titulaire à l'Université Laval et présidente d'Égal Action. Madame Demers, bonjour.
Oui, bonjour.
Bon, c'est un sujet qui est compliqué quand même, là, puis qui non plus se réglera pas en une chronique de 12 minutes, là. Non, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de pensées, de préjugés, d'idées préconçues, là. Un, sur la communauté trans, deux, sur les trans dans le monde du sport. Mais en partant, là, donnons-nous quelques chiffres, là. Je lisais des articles, là, en 2018, on estimait 0,5% de la population canadienne, là, la quantité de personnes transgenres, là, 680 000 personnes. Ces chiffres-là, quand même, avaient été débattus. Il y a des scientifiques qui disaient que c'était peut-être un petit peu plus. Là, on parlait de 3-4%. En 2021, est-ce qu'on a des chiffres sur le pourcentage de la population canadienne qui serait trans?
On n'a pas de chiffres. En fait, les chiffres, on va avoir le dernier recensement canadien où là, on espère c'est avoir... une idée un petit peu plus claire parce que là maintenant dans le recensement long en tout cas on posait ces questions là d'identité de genre. Actuellement effectivement les chiffres que vous avez donnés c'est ce qu'on a dépendamment des études, ça va de 0,5 à 3-4%. Je dirais que c'est la même chose si on regarde pour la communauté homosexuelle par exemple, dépendamment des études, ça va de 10 à 38%, tu sais des gens qui s'identifient non hétérosexuels.
Je comprends.
Et ce qu'il faut comprendre c'est qu'avec ces populations là il y a encore beaucoup de stigmates et il y a des gens qui n'osent pas, même dans des sondages ou dans des études, s'identifier. Fait qu'on
ne
sait jamais si les chiffres qu'on a sont exactement 100% justes.
On peut se dire en partant, Mme Demers, que c'est peut-être un petit peu plus que qu'est-ce qui est dit par rapport à cette raison-là. Bon, il y a les Jeux olympiques, il y a le fameux projet de loi 2 aussi là, qui a fait beaucoup jaser ces derniers temps. Là, je pense que c'est pour cette raison-là qu'il y a beaucoup de chroniqueurs qui agitent le spectre des trans dans leurs chroniques. Faisons le tour un peu là dans le sport. Il y a la question des trans, mais il y a aussi la question des personnes non-binaires. C'est pas la même affaire du tout, là.
Non, c'est ça. Donc, les personnes trans, c'est vraiment des personnes donc qui viennent, on vient tous au monde avec un sexe biologique, on s'entend. Donc, ça peut être mâle, femelle ou dans certains cas, ça peut être les deux. Mais et la plupart, la majorité d'entre nous, notre identité de genre, donc le fait qu'on va dire qu'on se sent femme ou homme, ça concorde avec notre sexe biologique. Donc, je suis venue au monde avec des organes femelles et je me sens comme une femme. Mm-hmm. Dans le cas des personnes trans, c'est là où il y a un disconnect, excusez l'anglicisme, où là, effectivement, effectivement, la façon dont je me sens, ça ne concorde pas avec mon sexe biologique. Donc ça, ce sont des personnes trans, alors que les personnes non-binaires, ce n'est pas qu'elles ne se sentent pas liées, disons, à leur sexe biologique en tant que tel, mais c'est qu'elles ne s'identifient pas ni au féminin ni au masculin. Alors, tu sais, dans notre société, on est vraiment, c'est très dichotomique, hein, c'est très binaire, c'est féminin, c'est masculin, puis il y a des gens qui se sentent ni un ni l'autre et ils se disent mais pourquoi il faut absolument que j'ai une étiquette qui soit liée à mon sexe biologique. Donc, je vais m'identifier comme non-binaire, c'est-à-dire que je m'identifie ni aux hommes, ni aux femmes, ni au féminin, ni au masculin.
Bon, excusez-moi ma question qui est peut-être niaiseuse, mais c'est-tu la même affaire que des gens qui se disent fluides d'être non-binaire?
Ben, en fait, les gens qui sont fluides peuvent soit être dire que tu sais par moment je me sens plus féminine, par moment je me sens plus masculin. Il y a des personnes qui sont non-binaires, qui ne seront pas nécessairement fluides. Ils vont pas dire je pense du féminin ou du masculin. Je suis vraiment ni un ni l'autre. En fait, je veux pas cette étiquette-là.
Okay.
Je me reconnais pas là-dedans.
Bon, là, c'est beaucoup plus clair. Bon, merci pour ça. Mais là, vous l'avez dit, puis je vais faire un peu de millage là-dessus, hein, Madame oui, Demers. Oui. C'est dans notre société, on aime ça fonctionner par classification, catégorisation. Puis le sport, c'est vraiment le lieu de prédilection pour ça. Tout est classé dans le sport. T'sais, on fait les classements des résultats, les classements des joueurs, des joueuses. T'sais, vous comprenez ce que je veux dire?
Oui,
donc, puis on sépare les équipes sportives en fonction de leur catégorie, dont leur catégorie de genre. Et il y a bien des gens qui se demandent si encore, en 2021, le fait de séparer les équipes sportives et les disciplines aussi, ou parce que c'est pas toutes les sports qui jouent en équipe, selon les genres, c'est encore d'actualité.
Oui, ben en fait, je parle souvent avec mes collègues, j'aimerais ça me projeter dans ma boule de cristal dans 10 ans.
Ouais.
Parce que selon moi, la structure du sport comme on la connaît aujourd'hui, elle ne sera plus comme ça, ça va exploser.
Hey, mais là, ça menace le sport, oh my God, Madame Demers,
oui.
ça sera plus juste, qu'est-ce qu'on va faire?
C'est ça. Mais en fait, il y a plusieurs... là, c'est sûr que c'est tellement ancré, là, on s'entend qu'en sport, tout est binaire, c'est vraiment oui. Le sport féminin, le sport masculin. On compare sans arrêt. Nécessairement, le sport masculin, c'est toujours meilleur que le sport féminin. Toutes mm-hmm. les athlètes masculins sont meilleurs que les filles, etc., etc. Donc, notre système sportif est basé sur la binarité. Fait que de penser qu'on pourrait changer ça, ben, là, on vient vraiment pas juste shaker les structures du temple, on vient les démolir puis dire, OK,
on fesse dedans qu'une pelle. Puis ça, il y a bien du monde qui aime pas ça. Pantoute, là.
Exact. Puis, un des parallèles qui est fait, c'est que si on regarde au niveau du sport paralympique,
okay.
Comment ont-ils réussi à faire en sorte que les compétitions, c'est pas parfait, mais pour que la majorité des disciplines soient ce qu'on va appeler juste, puis ce concept-là, il est tout le temps à prendre avec des pincettes là en sport, mais donc, ils ont des catégories qui vont faire en sorte qu'on va tenir compte du handicap pour s'assurer que même si vous et moi, on n'a pas le même handicap, lorsqu'on va arriver sur le terrain, sur la piste, on va avoir des avantages similaires ou des désavantages similaires. Donc, il y a des façons de repenser le sport, puis c'est une des voies qui est anticipée, en fait, dont on parle de plus en plus, c'est de dire, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon de catégoriser le sport pour qu'effectivement, tout le monde y trouve sa place et sans que systématiquement, il y ait des gens qui trouvent que c'est injuste.
Mais parce qu'on que c'est ça, Madame Demers, ouais. C'est l'idée que les gars sont plus forts et sont plus rapides, donc que les femmes trans, justement, elles seraient avantagées par rapport à leurs consoeurs de sexe féminin de façon biologique. Puis là, je le dis en toute candeur, là, j'espère que j'ai froissé personne en disant ça. Là. C'est comme compliqué les appellations. Mais c'est ça, c'est cette idée-là que, mon Dieu, c'est donc ben pas juste. Puis corrigez-moi si je me trompe, mais le sport à base, c'est pas juste. Il y a des joueurs de qui sont plus gros, qui sont plus rapides. T'sais, l'injustice, elle est partout dans le sport, non?
Exactement, c'est ça. Fait que ça, c'est en partant, ce concept de justice-là, il faut toujours se demander, c'est juste pour qui? Alors, si moi, effectivement, je suis une athlète puis je suis venue au monde en Amérique du Nord, j'ai probablement pas mal plus de chances de me rendre où je veux comme athlète que si je suis venue au monde au Bénin ou au Togo. Donc, cette notion de justice, elle est partout. T'sais, au basketball, si je mesure 7 pieds, ben je m'excuse, mais c'est un avantage. Fait qu'on
c'est
va faire pour les 5 pieds 8 et moins.
Oui, mais on parle des hormones. Là, on dit, OK, aux Olympiques, on fait des tests d'hormones. Puis en même temps, je me dis, Madame Demers, t'sais, les athlètes trans, ils n'ont-tu tant que ça? Là, c'est pas comme si c'était la grande menace non plus. Là.
Mais ça, c'est... Je suis vraiment contente que vous abordiez ce point-là parce que quand on en parle, il y a vraiment un discours qui est très, très transphobe. Donc, des gens qui, tout à coup, vont dire on met en péril le sport féminin. C'est comme s'il y avait 250 000 athlètes masculins qui, demain, vont décider d'aller compétitionner du côté des femmes pour gagner des médailles. Tu sais, c'est tellement absurde.
C'est comme un épouvantail qu'on agite,
oui,
mais
oui,
dans
oui.
quel but? C'est comme, on dit, il y a un lobby trans qui veut s'immiscer partout, oui. même aux Olympiques. Je veux dire, mais à quel point? Je veux dire, c'est comme si on fait un gros problème de société avec des gens qui sont une minorité qui veulent juste genre, vivre leur vie. Tu sais, ils ne demandent pas des exceptions, ils veulent juste faire partie de la société.
Oui, tout à fait. Puis ce que je trouve vraiment dommageable aussi, c'est que les gens, tu sais, je comprends que c'est un débat qui est extrêmement polarisé, où les émotions prennent souvent le dessus sur les données qu'on a, les données probantes en recherche, ce qu'on sait de la participation des femmes trans en sport. Puis à ce jour, là, je m'excuse, mais il n'y a pas de femmes trans qui ont gagné une médaille aux Olympiques, là. Laurel Hubbard, la néo-zélandaise qui est en haltérophilie, qui s'avait fait tout un plat parce qu'elle allait représenter la Nouvelle-Zélande. Mm-hmm. Elle a même pas levé sa barre une fois, là. Elle a même pas passé la première ronde. C'était fini.
Fait que ce fameux avantage-là, là, c'est une chimère.
Oui, et en fait, ben, c'est que le, il y a certes, parce que c'est ça, cette notion d'avantage-là, elle est tellement, subjective. Puis si on regarde au niveau des athlètes, des femmes trans, bien, on essaie de trouver effectivement ce critère-là qui serait supposément objectif pour dire, ben oui, on est capable de prouver hors que de tout doute qu'une femme trans a un avantage indu. Puis à ce jour, on n'a pas été capable de le prouver. Donc, un, il y a très peu d'études, puis on le comprend parce que c'est une petite population.
Exact.
Alors, on a très peu d'athlètes, des femmes trans avec qui on peut faire des études. Et ce qui fait que nos résultats, ils sont pas cohérents d'une étude à l'autre. T'sais, on n'est pas capable de dire, c'est clair, il y a un avantage, toutes les femmes trans gagnent toutes les compétitions. Alors, d'un point de vue scientifique, on n'est pas capable de le prouver encore aujourd'hui. C'est ça. Fait que je pense que c'est un débat qui vient nous chercher. T'sais, aussitôt qu'on parle du féminin, du masculin, puis surtout en sport, où notre norme, elle est encore vraiment autour du sport masculin, qui est, c'est ça le top, le best. Alors, de penser que quelqu'un qui était un garçon avant ou un homme avant transitionne et devient une femme, ben, c'est sûr que dans notre tête, on assume tout de suite que, voyons, si c'était un gars avant, c'est sûr qu'il va clencher toutes les filles.
Ou le contraire, on se dit, un homme trans, ben, il sera pas de calibre. Puis ça témoigne de préjugés qui sont tellement, profondément ancré. Moi, j'ai l'impression que les personnes trans en ce moment elles suivent le même genre de préjugés que la communauté gay dans les années 80. Tu sais, c'est un peu la même affaire.
Oui, on en connaît très peu. Puis malheureusement, c'est ça, c'est que dans l'espace public, écoute, j'écoutais encore l'entrevue de M. Facal avec Richard Martineau.
Oui.
J'en reviens pas, là.
Ça vous faisait bondir.
Des opérations qui ont été dites dans cette entrevue-là, puis des parallèles qu'on fait, tu sais, en disant, bon, ben là, parce que je me sens femme, c'est ça, là, il faut considérer que tu es une femme. Puis là, Martineau qui part en disant, et si moi, je me sens noire, je veux que tout le monde me voit comme noire. Tu sais, il faisait des parallèles.
Ouais, ben c'est pour ça, moi, j'avais envie qu'on parle avec quelqu'un dont c'était le métier de faire des recherches sur ces questions-là, parce que, comme vous dites, j'ai l'impression que ce sont des débats qui sont fort émotifs, qui touchent aussi au fondement même de notre société. Ça se passe comme ça depuis tellement longtemps que c'est sûr que ça peut être challengeant pour certaines personnes, puis c'est difficile aussi de se démêler. Même moi, qui est ouverte à ces questions-là, des fois, j'ai l'impression qu'on marche un peu sur des œufs, puis j'ai de la misère à comprendre certaines réalités, donc je trouve ça toujours le fun d'aller vérifier avec des gens dont c'est le métier, c'est quoi exactement la situation avec les athlètes trans, et vous avez très bien répondu à mes questions. Guylaine Demers, merci, qui est co-directrice du Centre de recherche canadien sur l'équité des genres en sport, qui est prof aussi titulaire à l'Université Laval et présidente d'Égal Action.